Bonsoir à tous. Je vous propose de lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. C'est une histoire que nous avons déjà lue, où nous voyons justement un homme pour qui le sort semblait définitivement scellé. Il va se retrouver avec une vie complètement bouleversée après tant d'années de disette, tant d'années où il s'est retrouvé seul. Je vous propose de commencer au verset premier. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde ou maison de la grâce, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il lui répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On va s'arrêter là. Il y a tout un débat après sur le sabbat, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est simplement la visite de Jésus dans une multitude pour une personne. J'aime ces textes où on voit finalement la grandeur de Dieu qui est capable de montrer toute sa grandeur dans les hautes sphères de ce monde, c'est vrai. Mais Dieu est Dieu justement parce qu'il est aussi capable de s'occuper du destin du pauvre misérable. C'est là toute la grandeur de Dieu. Premier verset de la parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Imaginez l'univers tout entier, toutes ces étoiles, ces planètes, ces galaxies, et combien il y en a? Vous les avez comptés? Il y en a une infinité. Même les galaxies qui sont déjà des groupements d'étoiles, on ne peut pas les compter. Et pourtant, on voit dans ce simple verset les projecteurs qui se braquent sur un grain de poussière, notre planète Terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre. Imaginez la caméra qui se focalise sur la petite poussière sur laquelle nous sommes. Et sur cette petite poussière, dans l'univers tout entier, Dieu s'intéresse à la petite poussière de la petite poussière, à savoir le misérable que nous pouvons être. Et cet homme en faisait partie. Et on a encore cette image qui transparaît dans cette histoire d'un homme qui va être visité par Jésus. Alors qu'il est noyé dans une multitude, Jésus va voir un homme précisément. Et ce qui fait que Jésus va intervenir dans sa vie, c'est que très certainement, il y a une prédisposition du cœur qui permet à Jésus de travailler. Dans la parole, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, nous assistons justement à une grâce de Dieu particulière pour cet homme qui était ainsi enchaîné depuis 38 ans, perclus des deux pieds. Cette piscine, je ne sais pas quoi en penser personnellement. Je la trouve assez injuste, Parce que finalement, c'est le moins pire qui est guéri. Et on en a l'exemple, je n'ai personne pour y aller. Autrement dit, c'était celui qui était le moins paralysé qui pouvait y aller. Ou alors c'était celui qui était le moins seul, qui avait peut-être des amis, et donc quelqu'un qui avait des personnes sur qui compter pour pouvoir le mettre avant les autres. Bref, il y a une loi qui ne me plaît pas beaucoup dans cette piscine, et qui finalement révèle toute une attitude qu'on peut avoir, nous, par rapport à notre situation sur la Terre, où finalement on essaye, dans notre vie, finalement, dans cette affaire, c'est un peu comme si on était au bord de la piscine dans notre vie et on essaye de s'en débattre tant bien que mal, comme on peut, et advienne que pourra, chacun avec ses propres forces essaye de tirer son épingle du jeu, mais finalement, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que dans cette piscine, il y a aussi une très très grande injustice quelque part, c'est qu'il n'y a qu'un à la fois qui peut être guéri, ils sont une multitude autour. Et à chaque fois qu'il y en a un qui guérit, il y en a une multitude qui est déçue. C'est malheureux. Mais c'est ce que nous décrit l'apôtre Jean. Et finalement, cette grâce, cette miséricorde, cette maison de la grâce, cette maison de la miséricorde, me semble bien limitée quand même. Et je crois que on en est tous à des situations de ce genre où finalement, dans nos vies, on essaye de nous débattre, on essaye de se débattre avec nos conceptions, avec nos forces, avec nos efforts, et on se dit « Ah, peut-être que comme ça, ça va marcher, je serai un peu plus heureux. Peut-être que si je m'achète telle ou telle chose, je serai un peu plus heureux, je vais obtenir un peu plus de satisfaction, mes loisirs seront améliorés. Peut-être que si j'obtenais telle ou telle situation de travail, ça irait mieux, ça serait plus facile, j'aurais plus de temps. Peut-être que j'aurais du temps même pour lire la parole, ou j'aurais du temps pour m'approcher de Dieu si je travaillais moins. » On peut en s'établir des tas de choses. Peut-être que si je trouvais une femme, peut-être que finalement, ainsi, avec une femme, ça ira beaucoup mieux. Peut-être que si je gagnais au loto, ça irait mieux. J'en sais rien. On peut se poser tellement de questions. On peut tellement essayer par nos propres forces de se projeter et de se dire comment ça pourrait aller mieux dans notre vie. On voit ici un homme qui, pendant 38 ans, va se bagarrer de cette manière. On ne sait pas ce qui, dans son cœur, va permettre l'action de Dieu. Peut-être que c'était un temps de Dieu aussi, qu'il fallait qu'il souffre un certain nombre d'années. Vous savez, il y a un mal terrible que cet homme va avoir. C'est exactement ce qu'on lit, verset 14. Vous avez lu avec moi. « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Autrement dit, la situation de cet homme, ainsi lié depuis 38 ans, et c'est peut-être l'image finalement de ce que nous sommes depuis notre naissance. 38 ans, c'est mon âge. Imaginons, depuis la naissance. Je ne sais pas combien de temps cet homme-là a ainsi été bien portant, mais toujours est-il que le texte nous indique d'une manière très claire qu'il est dans cette situation à cause de son attitude. Il est dans cette situation parce qu'il a commis un péché. Qu'est-ce que c'est un péché ? De quoi parlons-nous ? Est-ce que cet homme un jour a essayé de commettre un vol à l'étalage et puis en cherchant à s'enfuir, il serait tombé d'un mur ? J'en sais rien. Et il s'est retrouvé paralysé. Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui a joué avec les choses occultes et qui finalement s'est retrouvé piégé ? Je ne pense pas, parce qu'il n'est pas question d'un esprit chassé ici. Mais toujours est-il qu'il y a une situation finalement qui est provoquée par lui-même. Et j'aimerais dire ce soir que oui, nous avons une nature qui nous dit que nous sommes devant Dieu tous pécheurs. Devant Dieu, nous sommes tous livrés à nous-mêmes, nous allons tous commettre le mal. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que se mettre en colère ne nous demande absolument aucun effort. Il suffit que la situation nous y amène, on se laisse aller et on se met en colère, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que nous n'avons pas d'effort pour ainsi nous retrouver dans les liens. Je ne sais pas, moi, ça peut être... Est-ce que c'est dur de plonger dans l'alcool ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est difficile de plonger dans le tabac ? Non, c'est pas... On se laisse aller. Mais ça pourrait être tellement d'autres choses. Je parle des addictions, mais il peut y avoir simplement le mauvais caractère. Ah, c'est pas moi, c'est mon caractère. Je suis né comme ça, je ne peux rien faire. Alors, comme je suis né comme ça, je me laisse aller. Mais se laisser ainsi aller, ça démontre ici notre vouloir de ne pas changer, notre volonté à rester tel que nous sommes. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce passage dans le livre des Psaumes. C'est un passage que je cite régulièrement, mais qui a vraiment le mérite d'être clair. Pas que la Bible soit pas claire, mais les paroles sont tellement bien dites que j'aime citer ces versets. Psaume 14, vous ouvrez votre Bible au milieu à peu près, vous arrivez dans les psaumes, et vous prenez le 14. Et dans le psaume 14, au verset 2, je lis ceci. L'Éternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, à savoir que dans la multitude où nous sommes, l'Éternel, malgré tout, regarde. Et j'aimerais pouvoir te dire, ce soir, à la sortie tout à l'heure, que si l'Éternel t'a regardé, c'était pas pour te juger, c'est pas pour te condamner, c'est pas pour dire non, ce que tu fais n'est pas bien, et tu seras perdu pour l'éternité. C'est pas ça. Oui, il regarde et il constate que, on va le lire, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, disons-le. Il se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans cette multitude, Dieu te voit. Et au même titre que tous les autres, Dieu te dit qu'à ses yeux, tel que tu es, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi ? Parce que tu as été perverti. Tu as une nature qui a été pervertie. La perversion, ça veut dire que tu as été détourné de ton usage principal pour un autre usage. Et l'humanité tout entière a été pervertie le jour où Adam et Ève ont sombré dans le péché. Le jour où ils ont désobéi. Ils avaient reçu une parole de Dieu, une parole de vie, une parole qui devait les protéger. Et ils ont préféré ne pas tenir compte de cette parole et se fier à leurs propres conseils. Ils ont préféré écouter un inconnu. On le dit tous à nos enfants, fais attention aux inconnus. Et là, dans cette situation, Adam et Ève ont été amadoués par cet inconnu. Et ils ont cru dans la parole qu'ils ont entendue. Et ils ont voulu ainsi outrepasser les limites que Dieu avait données. Et le diable qui les entraînait ainsi savait bien où il les amenait, mais de cette manière. Ça a perverti l'humanité tout entière parce que depuis ce jour, l'homme ne cesse que de vivre pour lui-même. L'homme ne cesse que de vivre pour son bien-être personnel. Il essaye de s'en sortir et c'est ainsi la course où tout le monde est dans cette course-là de marathon et chacun essaye de s'en sortir comme il peut. Il y en a qui échouent plus ou moins vite, mais chacun essaye de se débrouiller tout seul et c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas qu'on reste ainsi dans cet égoïsme, dans cet égocentrisme. Non, c'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Mais Dieu a créé l'homme en lui laissant un conseil qu'il fallait écouter. Dieu a créé l'homme dans cette situation où il devait écouter pour vivre heureux. Et l'homme n'a pas écouté. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé pris au piège. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans une perversion totale. Nous lisons dans l'Épître aux Romains que Ceci s'appelle le péché. Cette désobéissance d'origine a ainsi perverti toute l'humanité. Les enfants qui sont nés d'Adam et Ève étaient atteints de la même manière. La preuve en est que dans l'histoire de Caïn et Abel, les premiers enfants qui ont existé sur la terre, il y en a un qui a tué l'autre. Premier meurtre. C'est malheureux. Le premier enfant qui est né, les deux premiers enfants, il y a déjà un meurtre. Pour vous dire quelle est la capacité de l'homme à aller vers le mal. Qui leur avait enseigné le meurtre? Personne. Mais c'est inné, c'est en nous. On ne peut pas s'empêcher de faire le mal. Et cet homme ainsi à la piscine, c'est le péché qui l'a amené ainsi dans cette paralysie. Et ça va durer quand même un certain temps, 38 ans. Ça fait quand même du temps pour réfléchir. On ne sait pas comment il a vécu ces 38 années. Est-ce qu'au départ, il en a voulu à ceux qui l'ont aidé à pécher, peut-être? Est-ce qu'il a vécu avec de la culpabilité? Est-ce qu'il a vécu, certes, dans la solitude, parce qu'il le dit lui-même, je n'ai personne? Il a été abandonné, peut-être, de ses amis? Peut-être que c'est quelqu'un qui menait la belle vie et qui, du jour au lendemain, a tout perdu parce qu'il s'est retrouvé paralysé. Il n'était plus intéressant pour les autres. Peut-être que c'est quelque chose qui résonne dans votre cœur. Peut-être qu'il y a eu un temps où vous aviez des amis autour de vous, vous aviez des personnes, et puis un jour, vous avez été frappé par le malheur et tous vos amis sont partis. Tous ceux sur qui vous comptiez sont partis. Tous ceux pour qui vous aviez de l'importance, tous ceux qui avaient de l'importance à vos yeux sont aussi partis. Vous vous retrouvez ainsi tout seul, avec votre mal, avec votre paralysie. Cet homme est ainsi, au bord de la piscine, ça fait 38 ans qu'il est seul, ça fait 38 ans qu'il se débat avec son péché et qu'il se dit « si j'avais su, je n'aurais pas fait ça ». Pendant 38 ans, c'est terrible. Mais c'est certain, parce que Jésus y fait allusion après, c'est certain que pendant ces 38 années-là, cet homme, il a dit « si j'avais su, c'est obligé ». C'est quelqu'un qui regrettait ce qu'il avait fait, c'est sûr. Sinon, Dieu ne lui aurait pas fait grâce. Et c'est là où j'en arrive à quelque chose de très important. C'est qu'il va rencontrer Jésus. C'est d'ailleurs Jésus qui va le rencontrer, si on veut être plus clair, plus précis. Il y a une multitude de personnes. Des gens de toute origine, de tous niveaux sociaux. Il y a des pharisiens, il y a des juifs, il y a des grecs peut-être bien, il y a des romains, il y a des pauvres, il y a des riches. Ce qui les rassemble, c'est la maladie. Et parmi tous ces malades, c'est malheureux de le dire, un seul sera guéri. Un seul sera touché par Jésus. Et Jésus est venu pour lui. Jésus est venu spécialement pour le rencontrer. Relisons ces quelques versets qui nous parlent de la rencontre. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit. Jésus savait. On l'a lu, on vient de le lire. Jésus savait qu'il était là depuis longtemps. J'aimerais te dire ce soir que Jésus te connaît. Jésus te connaît plus que tu ne te connais toi-même. Jésus sait tout de toi. Tu ne peux pas échapper au regard de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la multitude, Dieu te voit, toi tout seul. Et il te connaît en plus par cœur. La multitude de sentiments qui peuvent être à l'intérieur de toi, de souvenirs, de tout ce que tu veux. Il te connaît parfaitement, depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et il sait même ce que tu vas faire. Mais il t'a laissé le choix. Et là, on va voir ici où Jésus va lui proposer quelque chose. Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être guéri? Vous ne trouvez pas cette question surprenante? Vous avez affaire à un homme qui est paralysé depuis 38 ans et vous lui posez la question de savoir si oui ou non il veut être guéri. Ce serait une personne normale, on pourrait dire que c'est de la moquerie. On pourrait facilement le dire. Mais venant de Jésus, je crois qu'il n'y a pas de question inutile. Et malheureusement, c'est aussi ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a des fois des situations où nous sommes comme paralysés, des situations où nous sommes dans la souffrance, et il y a cette sorte de complaisance dans la souffrance. Et finalement, pour nous réveiller, il nous faut ce genre de questions. Mais est-ce que oui ou non, tu veux t'en sortir avec ton problème ? Est-ce que oui ou non, tu veux être délivré de ce qui t'enchaîne ? Elle est là, la question. Est-ce que tu le désires ou pas ? Est-ce que tu veux rester là jusqu'à la fin de tes jours, dans la paralysie, n'arrivant pas à t'en sortir ? Peut-être que tu es dans une situation où quelqu'un t'a offensé, puis que tu ne veux pas pardonner à cette personne, et que tu restes ainsi paralysé, parce que tu refuses de pardonner. Cette personne t'a déjà demandé pardon, et toi tu restes campé sur tes bases, et tu dis non, c'est hors de question. Et en même temps, avec cette position-là, Dieu ne peut pas te bénir et tu ne peux que considérer que tout va mal dans ta vie parce que tu restes dans une position où tu es campé dans ta décision de ne pas pardonner, de rester ainsi le cœur fermé à ceux qui viennent te voir et t'implorer le pardon. Peut-être que c'est ça. Sache que si tu veux être guéri, si tu veux être délivré, il va y avoir un acte de foi à faire. Et Jésus te pose la question ce soir, est-ce que tu veux t'en sortir ? Est-ce que tu veux être guéri ? Et là, on a ce malade qui répond, je n'ai personne. Mais ça tombe bien, c'est ce que Dieu attend comme réponse. Dieu n'attend pas que tu comptes sur les autres. Dieu n'attend pas que tu regardes ce que les autres vont penser de ta réaction. Dieu n'attend pas que tu commences à informer X et Y de quoi que ce soit pour qu'il t'aide. Là, on est dans une affaire qui est personnelle. Qu'il ait personne, ça tombe très bien. Parce que la personne sur qui il faut compter, c'est pas nos proches, c'est pas ceux qui nous entourent. Quand on est chrétien, c'est vrai, on peut partager des choses à des amis chrétiens qui, par la prière, peuvent prier pour nous. D'accord, je suis pas en train de dire qu'il faut pas parler de tout. Mais là, je parle de quelque chose d'important. On a l'image ici de la conversion de quelqu'un. Et le salut, c'est quelque chose de personnel. Le Seigneur désire te sauver. Le Seigneur désire te guérir. Il désire te délivrer complètement de ce qui t'enchaîne, de la maladie peut-être qui est là sur ta vie, de cette décision de non pardonner parce que tu ne veux pas, parce que tu as trop souffert. Le Seigneur veut te délivrer de cette souffrance. Mais c'est certainement pas en donnant cette histoire à tous ceux qui t'entourent que tu en seras délivré. C'est en te référant seulement à Dieu. Veux-tu être guéri ? Veux-tu retrouver la santé ? Tu n'as personne, et bien c'est bien. C'est une bonne chose, parce que c'est sur Jésus qu'il faut compter. Alors c'est ce que fait ce malade. Jésus lui donne cette parole qui va l'aider. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Voilà une décision un ordre qui peut sembler une question bizarre, un ordre bizarre. Le paralytique aurait pu dire à Jésus, mais je ne peux pas me lever, je suis paralysé. Et peut-être que ce soir, tu vas te dire, mais moi je ne peux pas prendre la délivrance, parce que je suis justement enchaîné par ça. On peut avoir la même réaction. Et si tu as cette même réaction, tu resteras paralysé. Ce paralytique a pris au mot les paroles du Seigneur. Il a accepté la parole. Il l'a reçue dans son cœur. Il ne l'a pas acceptée que dans sa tête. La parole est descendue plus bas, dans son cœur. Et la parole que Jésus lui a donnée a renversé tous ses raisonnements, a renversé tout ce qu'il pouvait penser. Et il l'a accepté et il s'est appuyé dessus. Comme celui qui va s'aider d'une canne pour se lever, ce paralytique va s'appuyer sur la parole que Jésus lui donne pour se lever. J'aimerais te dire ce soir que toi aussi, le Seigneur voudrait que tu puisses saisir toi-même la délivrance. Ça ne s'arrête pas là, la délivrance que Jésus veut donner dans une vie. Et suite à cette guérison, on a un homme qui va passer de la maison de la miséricorde à la maison de prière. C'est là que Jésus va le trouver. Et j'aimerais que vous puissiez regarder avec moi à nouveau. C'est à nouveau une allusion, verset 14. C'est des mots sur lesquels on passe vite. Mais quand on y fait attention, on se rend compte. L'amour de Dieu. Verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple. Mais il ne l'a pas rencontré fortuitement. Jésus le trouva. Quand on trouve quelque chose, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on l'a cherché. Jésus était au temple. Et jusqu'à ce qu'il vienne, Jésus regardait voir s'il le trouvait. Et quand il l'a vu, il est allé le voir. Voilà comment ça s'est passé. Jésus le trouva dans le temple. Cet homme a voulu changer de maison, de la maison de la miséricorde, où d'ailleurs ce n'est d'ailleurs pas la piscine qui lui a donné la guérison, c'est Jésus lui-même, ce qui est beaucoup plus qu'une piscine. Il a eu la guérison physique, mais on voit l'état de cœur de cet homme qui, on ne sait pas, est-ce qu'il ouvre les yeux sur son état et qu'il se rend compte qu'après la guérison, il y a encore quelque chose à régler ? Est-ce que c'est simplement par reconnaissance qu'il y va ? Bref, il a quand même le bon réflexe d'aller à la maison de prière. Et là, ça nous parle de quelque chose qu'il nous faut tous faire. C'est bien de saisir par la foi des guérisons, mais ce n'est pas des guérisons, ce n'est pas des expériences de fait qui vont te donner la sécurité. Ce n'est pas les expériences que tu fais qui vont te donner le salut que Dieu veut te donner. C'est autre chose. Et là, cet homme a le réflexe de la prière. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Il y va de son propre chef et il va voir Dieu pour lui prier, pour prier Dieu. Et Jésus le cherche. J'aimerais te dire ce soir que Jésus te cherche ce soir. Et j'aimerais tellement que nous ne sommes pas une grande foule, mais que parmi ceux que nous sommes, tu puisses saisir la grâce que Dieu voudrait te donner, à toi personnellement. Que tu puisses repartir de ce lieu en ayant fait une expérience avec Dieu, en ayant vraiment pu vérifier par toi-même que oui, Jésus est vivant et qu'il veut te donner la délivrance pour ce pourquoi tu es enchaîné, la maladie que tu as, je ne sais, je ne vais pas redonner la liste. Toi seul sais ce qui dans ta vie ne va pas et pour lequel le Seigneur voudrait te bénir, te guérir, mais il y a plus que ça. Et dans cette démarche, alors que le Seigneur t'offre la guérison, il te dit aussi qu'il désire te sauver. Et c'est pour ça même qu'il est venu. Il est venu dans cette maison de miséricorde pour venir guérir un malade. Et de la même manière, il est venu dans la multitude de l'humanité sur la terre pour nous sauver. Malheureusement, dans cette multitude, tout le monde ne va pas faire le choix de le suivre. Jésus est venu, j'aimerais qu'on le lise dans Philippiens, chapitre 2. J'aimerais qu'on comprenne que Jésus n'est pas qu'un simple prophète. Jésus, c'est Dieu lui-même. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça qu'il y a tant de puissance dans le nom de Jésus, tant d'autorité dans le nom de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Philippiens, chapitre 2. Verset 6, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Esclave, il a été vendu pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible nous dit qu'un jour toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La question qu'il faut se poser, c'est quand tu confesseras ces choses, tu seras où ? Jésus est venu du ciel, c'était Dieu. Il s'est fait homme. Il est venu sur la terre marcher comme un homme. Il a souffert, il a été méprisé. Il s'est fait insulter. Il a été brisé par les souffrances morales, physiques, tout ce que vous voulez. Il a souffert de tout la croix, tout ce qui l'a amené à la croix, parce qu'il y a eu la croix, certes, mais avant la croix, il y a eu le fouet, il y a eu Gethsémané, où il a été dans des angoisses terribles, sachant ce qui allait lui arriver. Jésus a connu la peur, l'angoisse, ces choses aussi. C'est ce que nous dit la Bible quand il était à Gethsémané. Il était terriblement oppressé. Et il a fallu qu'un ange vienne le soutenir pour pas que son cœur ne lâche. C'est un médecin qui nous rapporte qu'il transpirait du sang tellement c'était grave. On a un médecin parmi nous qui pourrait vous le confirmer, que c'est grave quand ça arrive. Et Jésus, ici, c'est ce qu'il a souffert. Après, il a eu des souffrances physiques. Il a eu la flagellation. Il a eu le fouet. C'était des fouets avec tout ce qu'il fallait bien dessus pour lui faire bien mal au dos. Il a eu le dos lacéré. On peut le lire. Ésaïe chapitre 50, je crois, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il veut te restaurer. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. C'est toute la soumission de Jésus qui avait besoin lui aussi des paroles de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. Verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Voilà ce qu'a fait Jésus alors qu'il était sur le chemin de la croix. Il a livré son dos. Il a été lacéré, il a souffert. Ensuite, il a subi la croix. La croix, c'était le pire des supplices pour les pires des hommes. Et Jésus, qui n'avait rien fait, se retrouve ainsi cloué sur une croix pour me sauver, pour te sauver. Il est venu dans ce monde pour que tu puisses obtenir la guérison, certes, mais surtout la délivrance du péché. Parce que sur la croix, on va le lire aussi, Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Jésus a remporté un triomphe à la croix en donnant sa vie. Et par la vie qu'il a donnée sur la croix, votre péché peut être pardonné. Par la résurrection de Jésus 3 jours après, quand vous vous repentez, il est au ciel pour intercéder en votre faveur. Alors que votre prière monte vers Dieu et que vous lui demandez pardon, le Seigneur Jésus, lui de son côté, il montre ses mains au Père, ses mains qui ont été transpercées pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour que vous puissiez être sauvés. Ce soir, que tu puisses aussi réfléchir, où est-ce que tu confesseras le Seigneur Jésus ? Est-ce que ce sera dans un lieu, finalement, de regret éternel, à l'image de cet homme qui, pendant 38 ans, a regretté ses méfaits ? Là, dans ce lieu, ce sera pour l'éternité que tu regretteras d'avoir refusé de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ pour toi. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même, dans le sens où le Seigneur, ce qu'il désire, c'est te faire du bien. Et en refusant de demander à Dieu la grâce qu'il veut te donner, comme pour cet homme, tu vas te mettre à l'écart d'une délivrance totale, du fait que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Dieu veut être réconcilié avec toi. Et pour cela, la balle est dans ton camp, je dirais. Il te faut t'approcher, demander à Dieu sa grâce, implorer à Dieu la délivrance sur ta vie, qu'il puisse te montrer ce que tu es. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. C'est exactement ce que Jésus voulait éviter à cet homme quand il lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Quoi de pire que de regretter pendant 38 ans ses méfaits et d'être ainsi paralysé? Ce qu'il y a de pire, c'est la condamnation éternelle. Or, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu parce qu'il t'aime. Et dans la foule de la multitude, il est venu pour toi. Il est venu te chercher, toi. Il désire que toi, tu sois sauvé. Il désire que toi, tu puisses recevoir la grâce qui ne vient que de lui. La grâce, c'est un cadeau immérité. Oui, il désire te pardonner pour ton péché, si seulement tu veux lui demander la grâce. On va prendre un dernier chant. Et pendant ce chant, j'aimerais t'encourager. Si, suite à ce message, tu désires être réconcilié avec Dieu, alors approche-toi sur le devant. Peut-être que tu n'as pas la force de prier, on va s'associer avec ta prière. Ne tombez pas dans le piège du regard des autres. De la même manière que ce paralytique, le fait qu'il ait personne, c'était la solution. Considère que tu es seul, ne considère pas les autres et approche-toi de Dieu avec ce cœur droit et sincère qui vient lui demander la grâce. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes efforts que tu pourras obtenir quoi que ce soit de Dieu. Seulement sa grâce pourra te sauver. Seulement sa grâce pourra te donner la délivrance que tu attends depuis si longtemps. Le Seigneur désire te faire du bien. Seulement, j'aimerais te poser aussi la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? C'est la question sur laquelle je vais rester maintenant et nous allons prendre ce chant.